Bonjour tout le monde, c'est Benjamin Muller, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles avec aujourd'hui un sujet délicat, un sujet compliqué, mais un témoignage très fort, le témoignage d'Hélène à propos de l'accouchement différé de jumeaux. Donc on va tout d'abord écouter Hélène et ensuite nous serons avec le professeur Salomon qui est gynéco-obstétricien à l'hôpital Necker à Paris. C'est parti.
Merci d'être avec nous, merci d'avoir le courage de venir témoigner, surtout que l'histoire est un petit peu fraîche, hein, parce que votre petite fille Mathilde a 2 mois seulement, donc vous êtes sa maman, vous êtes aussi la mamange, comme on dit joliment, d'Axel, son frère jumeau, qui est né sans vie à 17 semaines de grossesse. En fait, votre col s'est miraculeusement refermé après le passage d'Axel et vous avez accouché de Mathilde 4 mois et demi plus tard. C'est ce qu'on appelle un accouchement différé de jumeaux, c'est ultra rare. Et ça a permis à votre fille de rester dans votre ventre jusqu'à 8 mois de grossesse, de naître en pleine forme. Merci de venir partager votre histoire douloureuse, mais aussi miraculeuse avec nous ce matin. Donc après 2 ans de PMA, vous tombez enceinte de 2 bébés, une fille et un garçon. Et puis le début de grossesse se passe bien, voilà, RAS. Et à 16 semaines d'aménorrhée, donc 16 semaines plus 4 jours, parce que c'est évidemment à ces stades-là, très précis.
C'est important, ouais.
Vous avez des saignements, vous avez des douleurs qui vous amènent aux urgences parce que vous voulez contrôler. Et là, qu'est-ce qu'on découvre à l'échographie ?
Alors, c'était une jeune interne qui m'a fait l'échographie et je voyais qu'elle avait du mal à se repérer. Et elle me dit, vous inquiétez pas, c'est mon premier jour, je vais chercher ma collègue. Donc, elle va la chercher, sa collègue commence l'écho et pendant ce temps-là, la jeune interne me fait un examen du col. Et je vois les deux qui changent de tête. La jeune interne qui demande à sa collègue de venir voir, elle va voir, elle regarde et elle fait bon. Ok, je commence à baliser. Je me demande un peu ce qui se passe. J'avais très peur en fait que les cœurs se soient arrêtés. C'était ma hantise. Donc je leur demande et elle me dit non, les cœurs vont bien, par contre il y a un problème. Votre col est ouvert à 5 cm et une poche des os.
Ouais, c'est ce stade de grossesse.
C'est la moitié.
Ouais, c'est ça.
La moitié.
Vous comprenez ce que ça implique à ce moment-là quand on vous dit ça ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis sous le choc en fait. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je lui demande qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui va se passer ? Elle me dit là, vous êtes en train de faire une fausse couche, vous allez perdre vos bébés. Donc, on vous hospitalise.
Alors, vous restez hospitalisé.
Ouais.
Le lendemain, on vous propose de faire un cerclage. C'est-à-dire qu'on passe un peu de « vous allez perdre vos bébés » à « quand même, on essaye quelque chose, on fait
ouais.
un cerclage
ouais. ».
Est-ce que ça a fonctionné ?
Alors, après leur staff du matin, donc il y a un gynéco qui vient me voir et qui me dit, qui me repeint le tableau qui est extrêmement sombre en me disant qu'il y a très très peu de chances que ça fonctionne, mais qu'on peut éventuellement essayer de faire un cerclage, donc de repousser la poche des os à l'intérieur de l'utérus et de tenter de faire quelque chose. Avec mon compagnon, on s'est dit foutu pour foutu, autant essayer. C'était de toute façon ça ou j'accouchais dans la semaine. Donc on a essayé. Ils se sont acharnés pendant plus d'une demi-heure. Et au final, en fait, mon col était comme du papier à cigarette, donc il n'y avait rien qui tenait, la poche ne voulait pas rentrer.
Et le col à chaque fois se déchirait, qu'en fait,
c'est ça. Ouais, c'était tellement quoi. Fin qu'il n'y avait rien qui tenait, ouais, en fait. Le fil ne prenait pas.
Donc échec du cerclage, la poche des os d'Axel est engagée dans le col, elle rompt, on vous transfère en salle de travail, et là, ils pensent tous que vous allez accoucher.
Et il ne se passe rien. Il se passe que dalle. J'ai pas de contraction, j'ai pas de douleur. Pendant 3 heures, on nous laisse là. On vient nous voir régulièrement quand même, hein, pour vérifier. Mais au bout de 3 heures, on me dit ça peut arriver que des fois, avec la poche rompue, la grossesse continue, comme le liquide amniotique se renouvelle continuellement, éventuellement, on vous renvoie dans la chambre.
Donc vous aviez un petit espoir à ce moment-là ?
Minime. Voilà.
Oui, ils ne vous mentent pas, quoi. Ils ne vous dites pas non plus.
Non, ils ont été complètement honnêtes. Oui. Complètement honnête.
Et puis le lendemain, vous allez aux toilettes. Ouais. Et là, c'est l'horreur.
Donc, j'allais à la selle. Et donc, j'ai eu une poussée réflexe. Et c'est Axel qui a commencé à sortir.
Ça, c'est vraiment le moment horrible pour vous.
Ouais. En fait, j'ai eu juste le réflexe de mettre la main, en fait, pour l'empêcher de sortir, de le repousser. Et voilà. Et je le sens encore.
Ouais, c'est atroce. On vous emmène en urgence à la salle de naissance. Mmh. Axel naît, donc on est, je le disais tout à l'heure, 17 semaines d'aménorrhée plus 4 jours. Évidemment, il n'est pas viable. Généralement, la naissance du premier jumeau déclenche forcément celle du deuxième jumeau, c'est ce qu'on vous avait dit.
C'est ça. On s'attendait à ce qu'elle sorte dans la foulée. Et pareil, comme la veille, en fait, il ne s'est rien passé. Un des gynécos donc m'examine, il regarde mon col et il voit qu'il s'est refermé raisonnablement.
Qu'est-ce qu'ils vous disent là, à ce moment-là? Ils n'en reviennent pas, non?
Oui, ils sont un peu...
Vous passez de 5 à combien, vous vous souvenez ou pas?
Ils ne m'ont pas dit.
Enfin, de 5, je sais pas, parce que vous y êtes beaucoup plus ouverte, évidemment.
Oui. Mais non, ils ne m'ont pas dit.
Non, non.
Ils m'ont dit, voilà, ça s'est refermé raisonnablement, le travail ne se déclenche pas. Et c'est là qu'ils m'ont dit, bon, on peut peut-être éventuellement tenter de laisser le deuxième bébé si le travail ne se déclenche pas, pour essayer de prolonger la grossesse. Mais tout ça en mettant des pincettes, mais de dingue, en fait.
Parce que, pour essayer de ne pas vous donner trop d'espoir.
Voilà, voilà.
Mais vous aviez quand même de l'espoir à ce moment-là? Vous y croyez ou pas?
Oui et non. Enfin, je n'arrivais pas à y croire, mais en même temps, je ne pouvais pas lâcher. C'était pas possible. Mmh. On en avait tellement bavé pour avoir cette grossesse-là que non, il fallait pas que je lâche. Donc, la moindre petite parcelle d'espoir, en fait, ben, je me suis accrochée. C'était pas concevable de la laisser sortir, en fait.
Bien sûr. Alors, je précise qu'il y avait deux placentas, en fait. Hein, c'était des jumeaux. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, voilà.
Bicorial, biamniotique.
Mais le placenta d'Axel, il est pas sorti.
C'est ça.
C'est ça. Donc, comment on procède dans ces cas-là?
Alors, ils ont suturé, donc forcément, il y avait le cordon ombilical qui sortait. Ils ont suturé le cordon d'Axel au plus proche du col pour faire en sorte qu'il remonte au mieux possible dans l'utérus pour ne pas me gêner.
D'accord. OK. Alors là, en fait, du coup, pendant 48 heures, vous êtes sous surveillance.
Ouais.
Le travail ne se déclenche pas, donc quand même, l'espoir continue. Au bout de 15 jours d'hospitalisation, toujours pas de contraction, il ne se passe rien. Donc, on vous propose de rentrer chez vous, si j'ai bien compris. Et après, on vous propose de retenter un cerclage.
C'est ça. La gynécologue qui me suivait depuis le début de la grossesse donc m'a fait une écho de col et il s'avérait que mon col était mieux refermé encore qu'après le premier accouchement.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent à ce moment-là? Parce qu'ils hallucinent, non, quand même, l'équipe médicale?
Ouais, t'es un petit peu étonnée quand même. Et elle me dit, bon, à distance de l'accouchement, elle a dit qu'on pouvait retenter un cerclage. Il y avait plus de bénéfices que de risques, en fait, à le faire à ce moment-là. Donc, 3 jours plus tard, on me remet sur la table, on me cercle et cette fois-ci, il a tenu.
Ça a marché.
Ouais.
À partir de ce moment-là, vous nous avez dit en préparant l'émission, OK, là, je rentre en mode marathon.
Ouais.
C'est-à-dire que vous vouliez y arriver, quoi. Mm. Là, vous êtes mise en mode battante, quoi.
C'est ça. Ouais. Chaque jour, en fait, on se fixait des objectifs à court terme. Donc, au début, c'était des jours, après des semaines. Et puis après, c'était les différents stades de la prématurité. Et au fur et à mesure qu'on avançait, on n'en revenait pas. Enfin, c'était assez, assez incroyable parce que tout se passait bien. C'était comme s'il y avait une grossesse normale, en fait, au final. Enfin, presque normale. Mm. Et voilà, on se fixait ça, en fait, pour tenir vraiment jusqu'au bout.
Contre toute attente, vous passez le cap décisif des 28 semaines. Mm. Ensuite, 32 semaines, c'est-à-dire que vous êtes à la fin de la grande prématurité à ce moment-là, donc c'est déjà une victoire extraordinaire. Le 20 septembre, à 36 semaines plus 3, c'est-à-dire 8 mois, on vous retire votre cerclage et là, tout est allé super vite. Le travail s'est mis en route dans la nuit qui a suivi. Vous arrivez à 4 heures à la maternité, à 9 heures, vous êtes ouverte à 5 et là, votre fille est née peu de temps après, c'est ça?
C'est ça. En fait, je voulais à la base un accouchement le plus naturel possible parce que bon, le côté médical, on avait bien donné. Et je sais pas, je me suis fait un flip, mais monumental. J'avais peur en fait de ce qui pourrait se passer si je devais partir en césarienne, qu'on m'anesthésie, que je rate les premières heures de ma fille. Donc j'ai demandé la péridurale et qu'ils ont mis une demi-heure à me poser tellement les contractions étaient vraiment costauds et très rapprochées. Il me la pose, il devait être 10h à peu près, 10h30. Je demande au bout de combien de temps on va faire effet. Et ils me disent 10-15 minutes. Ok, d'accord. Et là, me poussait mais de dingue. Et c'est Mathilde qui est arrivée. Ils sont allés chercher...
Vous avez tout senti alors, parce qu'elle n'est pas encore effet.
Ouais, bah c'est ça. Bah, en fait, elle n'a pas fait effet du tout sur le coup. ça a duré 10 minutes, 10 minutes, 4 poussées, et elle est sortie.
Donc, cerise sur le gâteau, vous l'avez vu, votre accouchement physio.
C'est ça.
Alors, elle est née le 21 septembre 2021 à 10h38. Elle mesurait 45,5 cm.
C'est important.
Pesait 2,370 kg. Comment est-ce que vous avez vécu cette rencontre? Parce que vous avez eu de telles montagnes émotionnelles.
C'était... fort, oui. Très fort. Bon, je planais un petit peu parce qu'ils m'ont repoussé deux fois l'anesthésique en fait pour me faire une révision utérine pour vérifier que le placenta d'Axel était bien sorti en fait. Oui. Donc j'étais un peu dans les vapes quand même. Ils l'ont mis en poids sur papa d'abord et puis après donc ils me l'ont apporté sur moi pour faire une tétée d'accueil de plus d'une heure. Et là ouais, je me suis rendu compte que bah ça y est, on avait réussi quoi. C'est fini et elle était là.
Ouais, donc j'imagine que c'est la joie qui a pris toute la place. Ouais. Est-ce que vous avez déjà parlé à Mathilde de son histoire?
Oui. Pendant la grossesse, je lui en parlais tous les jours. Je lui disais voilà, que son frère était parti, mais que ce n'était pas de sa faute, qu'il fallait qu'elle s'accroche et que, voilà, qu'elle était en sécurité avec moi et que tout irait bien. Et puis, bah, depuis qu'elle est née, bon, je lui en ai parlé aussi, mais je lui en parle moins. Enfin, faut aussi laisser passer le temps. Mais,
Oui, il faut aussi que vous vous répariez, vous, j'imagine.
Oui, ouais, un petit peu. Ouais.
Aujourd'hui, vous allez bien?
Ça va. On est apaisé là.
Là, 2 mois, ouais. Vous n'êtes pas trop choquée Non, ça va?
Ça va mieux, ça va mieux. En fait, j'ai été suivie en fait, pendant ma grossesse par une psychologue hypnothérapeute qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et voilà, c'est aussi grâce à elle, je pense, que Mathilde est là parce qu'elle m'a aidée à tenir jusqu'au bout. En fait.
Professeur Laurent Salomon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être sur le plateau des maternelles. Vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital et à la maternité Necker Enfants Malades à Paris, spécialisé dans le suivi des grossesses à risque. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est un accouchement différé de jumeaux? Parce que ça fait 6 ans que je présente cette émission, j'en avais jamais entendu parler.
Alors effectivement, c'est un cas très particulier et rare. Il faut replacer un peu le contexte. Donc on est dans le cadre d'une grossesse gémellaire, donc des jumeaux. Et survient malheureusement un accouchement extrêmement prématuré. On n'est même pas tout à fait sur un accouchement, on est presque plus dans ce qu'on appelle une fausse couche tardive, donc on est avant le seuil de viabilité. Donc l'accouchement survient pour des raisons qui peuvent être variables. On se retrouve avec l'accouchement du premier jumeau qui malheureusement donc n'est pas viable. Et puis les choses ont l'air un petit peu miraculeusement effectivement de se calmer et on va décider d'essayer de temporiser et d'essayer de maintenir la grossesse pour le deuxième jumeau jusqu'à l'amener à un terme où la viabilité peut être envisagée. Alors évidemment, c'est un pari. On ne sait pas, quand on se lance dans cette démarche, si ça va tenir et combien de temps ça va tenir. Et évidemment, le pronostic va être lié à cet intervalle qu'on arrive à maintenir entre la naissance du premier et la naissance du deuxième.
Alors justement, on a une question de Karen qui vous demande comment est-ce qu'il est possible que le col se referme miraculeusement, comme vous disiez, après la naissance d'un des deux jumeaux, et est-ce qu'on a une explication à ce phénomène?
Alors, on n'a pas vraiment d'explication. Il faut comprendre d'abord que comme on est sur un accouchement extrêmement prématuré, le col ne s'ouvre pas totalement comme pour un accouchement à terme. Le col s'ouvre un petit peu. Cela va conduire à la naissance du premier jumeau. Mmh. Et puis ensuite, les contractions se calment par elles-mêmes. Mmh. Et donc, le col, peu à peu, comme le racontait Hélène, va se refermer et parfois même ce mouvement de se refermer va se prolonger encore pendant les quelques jours et les quelques semaines qui suivent. Et des fois, effectivement, ça peut permettre de proposer un cerclage un peu plus tard, comme dans l'histoire d'Hélène.
Mais est-ce qu'on peut dire que c'est parce que la nature est bien faite, tout simplement? C'est-à-dire qu'il y a un bébé qui n'est pas viable ou qui a un problème, donc le corps, naturellement, le fait partir, et puis le bébé qui va très bien, le corps le garde?
Alors, c'est pas toujours ce cas de figure. Le plus souvent, c'est l'utérus qui spontanément va se mettre à contracter, parfois du fait d'une inflammation, d'une infection. Il va y avoir l'expulsion du premier jumeau. Et puis, les choses se calment d'elles-mêmes. Il n'y a pas forcément une anomalie sur le premier jumeau.
D'accord.
Ça peut être organique, tout à fait.
Je préférais votre théorie. La nature est bien faite.
Oui, on va garder votre théorie.
La nature est bien faite.
Professeur Le Caron, merci.
Merci beaucoup. Je serai toujours là, à votre service.
Un témoignage, une question de Laura pour vous, professeur.
Bonjour la maison des maternelles. J'ai vécu un accouchement différé tout comme Hélène, sauf que ma fille est née beaucoup plus tôt à 25 SA. Suite à la naissance de mon premier bébé à 18 SA, l'équipe médicale a refusé de me faire un cerclage. Donc j'aurais aimé savoir quels sont les bénéfices et les risques d'un cerclage lors de ce contexte. Merci.
Ça a l'air un peu délicat quand on écoute le témoignage d'Hélène aussi. On sent bien qu'il y a eu beaucoup d'hésitations sur les cerclages.
Alors, effectivement, la prise en charge n'est pas du tout standardisée parce qu'on est dans des cas, encore une fois, extrêmement rares.
Pardon, on peut peut-être expliquer ce qu'est un cerclage, d'ailleurs,
absolument.
Parce qu'on ne l'a pas vraiment
absolument.
Fait.
Donc, en fait, après ce premier accouchement de jumeaux, on va essayer de maintenir la grossesse le plus longtemps possible et les médecins vont pouvoir avoir recours à différentes thérapeutiques. Les antibiotiques, parce que, comme on l'a dit avant, il y a assez souvent un contexte infectieux et parfois, on va utiliser des antibiotiques. Ce qu'on appelle des tocolytiques. Les tocolytiques, c'est des médicaments qui vont réduire l'activité contractile de l'utérus. Donc parfois, on va essayer de calmer un petit peu l'activité contractile de l'utérus. Et puis parfois également le cerclage. Le cerclage, ça consiste à passer un fil de suture, tout autour du col pour aller resserrer et faire un nœud pour essayer
D'accord.
de refermer ce col. Donc c'est un moyen mécanique de refermer le col. Il n'y a absolument aucune recommandation sur l'utilisation des antibiotiques, des tocolytiques ou du cerclage dans ce type de cas. C'est au cas par cas,
c'est compliqué
en fonction
à faire,
du
le cerclage.
Contexte. Et le cerclage, là encore, comme dans l'histoire d'Hélène, peut être compliqué à faire parce que des fois, le col est extrêmement fin, extrêmement court, extrêmement fragile. Et le cerclage n'est pas en soi une intervention qui est totalement dénuée de risque. Donc, il y a des histoires avec un cerclage qui finalement se passe bien et puis d'autres qui vont se passer moins bien. Le cerclage, c'est quand même une intervention chirurgicale. On va mettre un fil au niveau du col et parfois on va le fragiliser encore plus. Et parfois on peut favoriser au contraire le développement d'une infection avec ce fil de cerclage. Et on peut parfois empêcher l'utérus de lutter contre une infection en laissant le col s'ouvrir. Donc c'est vraiment au cas par cas. Il y a des histoires heureuses et des histoires moins heureuses avec des cerclages.
Est-ce possible de maintenir un bébé in utero et d'attendre un terme plus acceptable, même si la poche des os est fissurée ou rompue ? Le manque de liquide amniotique n'est-il pas un souci ?
Alors oui, c'est possible, mais effectivement, le manque de liquide amniotique, ça peut être un souci. En fait, la poche de liquide amniotique, elle a deux fonctions essentielles. La première fonction, c'est un rôle de protection contre les infections. Le vagin, c'est un milieu qui n'est pas stérile, alors que l'utérus doit rester strictement stérile. Et les obstacles aux infections, c'est le col, dont on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, et la poche amniotique. Quand la poche amniotique se rompt, ça expose un petit peu plus l'utérus à l'infection. Le deuxième problème, c'est que le fœtus, pour se développer, en particulier tôt dans la grossesse, il a besoin de ce liquide amniotique pour constituer ses poumons et pour favoriser le développement des poumons. Donc quand le liquide amniotique va être perdu très tôt dans la grossesse, quand la poche se rompt très tôt dans la grossesse, ça pose non seulement le problème infectieux, mais également le problème du développement des poumons qui ont besoin de ce liquide amniotique.
Une question de Bérénice qui vous dit: que fait-on du placenta du premier jumeau et du cordon après sa naissance? Est-ce risqué s'il reste dans l'utérus? On dit qu'il ne doit rien rester dans l'utérus pour éviter une hémorragie.
C'est ce qui s'est passé pour Hélène.
Alors, effectivement, on a l'habitude de dire qu'il ne doit rien rester dans l'utérus. Ce n'est pas aussi simple que ça, en particulier dans le cas des accouchements différés dont on a parlé. On laisse le placenta et le cordon ombilical du premier jumeau. On veut éviter à tout prix de toucher quoi que ce soit de plus pour éviter que l'utérus se remette à contracter. Et donc, effectivement, comme pour Hélène, on va lier le cordon le plus haut possible et on va laisser ce bout de cordon et le placenta en place dans l'utérus jusqu'à l'accouchement du deuxième jumeau.
Alors, Maëva nous dit « Je viens d'apprendre que j'attends des triplés et j'ai déjà deux enfants. On va certainement me proposer une réduction embryonnaire. Comment se déroule cette intervention ?»
Alors, c'est des cas de figure un petit peu compliqués. Effectivement, quand il y a des grossesses qu'on dit de haut rang, c'est-à-dire 3 voire 4 grossesses dans l'utérus, on peut être amené à discuter avec les parents d'une éventuelle réduction embryonnaire. Le but est donc de réduire les risques de ces grossesses hyper multiples et d'arriver à une grossesse avec un pronostic un peu meilleur. Donc, c'est toujours des choses qui sont discutées au cas par cas. Ça n'est fait qu'à la demande des parents. On va discuter avec les parents, mais ça n'est fait qu'à leur demande. Et donc, on va décider effectivement d'arrêter le développement éventuellement d'un des embryons pour favoriser les autres.
Donc, c'est eux qui prennent la décision et vous
c'est
vous
les
orientez.
Parents qui prennent la décision.
Et alors, si elle prend la décision d'enlever par exemple un embryon, comment ça se passe ?
Alors, si elle prend la décision d'enlever un embryon, en fait, on n'enlève pas réellement un embryon. On va injecter un anesthésique qui va arrêter le D'accord. développement d'un des embryons très tôt dans la grossesse.
Anna vous dit « Mon bébé décédé in utero doit rester dans mon ventre jusqu'à la naissance de son jumeau en bonne santé. C'est dur, bien évidemment, on la comprend. Est-ce possible de déclencher uniquement la naissance du jumeau décédé ?»
Alors effectivement, c'est des situations qui sont difficiles. Sur le plan psychologique, malheureusement, on ne peut rien faire.
Il faut... Même, ça ne dépend pas du nombre de semaines
non, malheureusement, on est obligé d'attendre au maximum parce que si on voulait faire quoi que ce soit pour essayer d'enlever ce jumeau décédé, on prendrait trop de risques pour le co-jumeau. Donc, on est obligé d'attendre le plus longtemps possible. Et on ne sait pas enlever sélectivement un des embryons ou un des jumeaux de
l'utérus. Même quand il y a deux placentas, c'est impossible.
Même quand il y a deux placentas, on ne sait pas faire.
Ça, c'est horrible, franchement.
Ouais, psychologiquement, ça doit être terrible de savoir qu'on a un bébé...
Psychologiquement, c'est effectivement très difficile et on le fait vraiment au bénéfice du co-jumeau.
Elle est suivie automatiquement.
Oui, bien sûr, on va proposer un suivi adapté dans ces situations.
Dorine dit « Je suis enceinte de jumeaux, j'ai très peur du syndrome transfuseur-transfusé. Si ça arrive, comment peut-on agir ?» On peut peut-être rappeler ce que c'est déjà.
Tout à fait, le syndrome transfuseur-transfusé, il ne va survenir que dans un cas particulier de jumeaux qui sont les jumeaux monocoriaux. Donc on en a parlé tout à l'heure, en fait, quand il y a des jumeaux, c'est-à-dire deux bébés dans l'utérus, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure qui est le plus commun, où chaque bébé a son placenta, c'est un peu des voisins de palier. Et puis le deuxième cas, beaucoup plus compliqué, c'est les deux bébés qui partagent le même placenta, c'est ce qu'on appelle une grossesse monocoriale.
C'est les colocs.
Voilà, exactement. Et dans ce cas-là, les colocs, ça se passe moins bien, vous avez tout à fait raison. Et donc, il y a toujours des petites anastomoses, c'est-à-dire des petits vaisseaux sanguins qui vont faire communiquer les circulations des deux jumeaux. Et parfois, ces petits vaisseaux vont se déséquilibrer dans leur flux et le flux va se diriger préférentiellement vers un des jumeaux et déséquilibrer toute la circulation qu'il y a entre ces deux jumeaux. Et c'est ça le syndrome transfuseur-transfusé. L'un des deux fœtus va commencer à avoir trop de sang, trop de liquide amniotique, il va faire beaucoup pipi, alors que l'autre bébé va avoir exactement l'inverse, moins de liquide amniotique, une toute petite vessie, et c'est le syndrome transfuseur-transfusé.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On a développé maintenant, il y a plusieurs années, une intervention chirurgicale in utero, qui se fait au laser, où on va sélectivement, in utero, donc aller coaguler les petites anastomoses, les petits vaisseaux qui font communiquer ces deux circulations pour interrompre le syndrome transfuseur-transfusé. C'est véritablement une intervention qui a bouleversé le pronostic du syndrome transfuseur-transfusé.
Ça, c'est tout récent. Ça se fait uniquement à Necker en France ?
Non, ça se fait dans plusieurs centres maintenant qui existent. Effectivement, Necker est le centre de référence pour cette pathologie, mais il y a maintenant plusieurs équipes qui ont développé cette compétence. Et il y a plusieurs centaines d'interventions comme celle-ci chaque année maintenant en France.
Donc pas forcément à Paris. Il n'y a pas forcément besoin de venir à Paris.
Une question de Justine qui vous dit « Je suis en menace d'accouchement prématuré, je dois rester tranquille mais pas alitée en continu. Pourtant, j'ai peur de me lever pour manger ou me doucher. Comment savoir ce que je peux faire ou non ?» Ben, on peut comprendre que ce soit stressant.
Alors, c'est effectivement difficile de trouver le bon équilibre. Voilà. Ce qui est certain, c'est que ça ne sert à rien de rester strictement au lit. Ça a été bien démontré. Au contraire, on prend plus de risques. Risque d'avoir une phlébite, risque d'avoir une fonte musculaire. Donc, il faut garder une activité physique, il faut pouvoir se lever, il faut pouvoir aller aux toilettes, faire la cuisine, etc. Mais on dit globalement d'avoir une vie calme. C'est-à-dire qu'on va arrêter tout ce qui n'est pas absolument nécessaire, on va souvent arrêter d'aller au travail, on va arrêter de faire une journée shopping ou de faire des activités sportives intensives. Mais il faut certainement continuer de se lever et de vaquer aux occupations quotidiennes.
Le mouvement, c'est la vie.
Le mouvement, c'est la vie et c'est très important pendant la grossesse.
Violette nous dit « On a diagnostiqué à mon bébé un retard de croissance in utero. Puis-je aider à renverser la tendance d'ici la naissance ? Est-ce que manger plus a un impact ?» Elle se met déjà beaucoup de pression, Violette.
Absolument, c'est une question très fréquente des femmes enceintes. En fait, leur alimentation n'influe pas directement sur la croissance du fœtus et on n'a pas vraiment trouvé de technique que, en tout cas, la mère puisse faire pour améliorer la croissance de son fœtus. Donc non, il n'y a rien de particulier à faire. Bon, pas trop se faire de soucis.
C'est bien de le dire, voilà, pour lui alléger la conscience.
Exactement.
C'est pas de sa faute ou de sa responsabilité.
Ça n'est absolument pas de sa faute.
Alors, une autre question. Je suis enceinte de jumeaux Bibi à 29 semaines. Mon utérus est contractile depuis 20 SA. Depuis un mois et malgré un alignement strict, mon col se réduit 3-4 mm tous les 15 jours. À quoi cela peut-il être dû ? Alors, Bibi, est-ce que tout le monde sait ce que c'est ? Je ne sais pas.
Donc, Bibi, on est dans le cadre d'une grossesse bicoriale, donc les voisins de palier.
Voilà.
Voilà. Donc, chacun a son placenta, chacun a ses membranes amniotiques. Et donc, le col, visiblement, chez cette femme, se réduit petit à petit, ce qui indique un risque légèrement augmenté d'accouchement prématuré. Mais la première chose qui doit la rassurer, c'est que finalement, ça fait quand même un mois que ça dure et les choses restent relativement stables. Elle n'a pas accouché. Donc ça, c'est le premier élément qui est très rassurant. Puis l'autre chose que nos auditeurs doivent savoir, c'est que physiologiquement, le col se raccourcit tout au long de la grossesse. Ça, on l'a bien montré. Et donc, le fait qu'il se raccourcisse d'un examen à l'autre, tant que ça ne conduit pas à un raccourcissement majeur et à l'accouchement, c'est normal.
On peut être rassuré.
On peut être rassuré.
J'ai eu une RPM à 21 semaines. RPM, c'est ?
Rupture prématurée des membranes.
Et j'ai accouché, merci. Et j'ai accouché 2 semaines plus tard. Mon bébé n'a pas survécu. On m'a dit qu'il n'y avait pas d'infection, qu'il n'y avait pas vraiment d'explication. Est-ce commun ?
Oui, malheureusement, c'est une situation qui est relativement fréquente. Les membranes se rompent, ça conduit à une inflammation sans nécessairement qu'il y ait une infection, ou bien il peut y avoir une infection qui passe inaperçue, qu'on n'arrive pas à détecter, et ça conduit malheureusement à l'accouchement. C'est une des causes fréquentes d'accouchement très prématuré. Mm-hmm.
Alors, une question d'Amandine qui vous demande quels sont les pourcentages de survie, de chances de survie à partir de 28 SA.
Alors, c'est extrêmement variable. Maintenant, grâce au progrès de nos collègues réanimateurs néonatales, à 28 SA, le taux de survie est quasi de 100%. Mais ce qui nous importe essentiellement, c'est le taux de survie sans séquelles. Et donc là, c'est un petit peu plus compliqué à 28 semaines. Mais maintenant, grâce au progrès de la réanimation néonatale, à 28 semaines, on considère qu'il y a vraiment de très bonnes chances de pouvoir avoir un enfant qui ira bien.
Est-ce qu'on peut sortir un tout petit peu de ce sujet?
Sortons.
La grande question que j'aime bien poser à chaque fois à propos du Covid, est-ce que là, on sait que ça repart un petit peu. Est-ce que vous, à la maternité de Necker, vous avez des femmes hospitalisées enceinte?
Alors actuellement non, il y en a eu plusieurs, actuellement il n'y en a pas. On a des cas de femmes enceintes qui sont positives au Covid, mais pour l'instant qui ne nécessitent pas une hospitalisation, et c'est l'occasion de rappeler qu'il faut que les femmes enceintes se vaccinent. C'est extrêmement important pour protéger elles-mêmes, leur fœtus et les autres.
On se vaccine peu importe la période
absolument,
de la grossesse?
Absolument, quel que soit le terme de la grossesse.
Et si on a un projet de bébé, ça pose aucun problème de se
absolument, vacciner. Il faut se vacciner.
Et une dernière question qui est souvent posée, c'est on peut allaiter et se faire vacciner.
Tout à fait.
Voilà, ça valait le coup de le rappeler.
Barbara vous demande, je suis enceinte et j'ai attrapé le CMV. Je n'en avais jamais entendu parler. Comment ça s'attrape et quels sont les risques pour le bébé?
CMV, cytomégalovirus.
Le cytomégalovirus.
Une question, une réponse. Oui.
Le cytomégalovirus, absolument. C'est un virus qui se transmet essentiellement par les jeunes enfants. Donc c'est typiquement une pathologie que les femmes enceintes vont attraper quand elles ont déjà un premier enfant en crèche. Ça se transmet par les sécrétions des jeunes enfants, donc ça veut dire les larmes, la salive, les urines, etc. Et ça peut être dangereux pour les femmes enceintes, en particulier si elles attrapent cette infection au premier trimestre de leur grossesse. C'est effectivement une cause majeure maintenant de handicap et d'infection néonatale. Et c'est quelque chose sur lequel les femmes doivent être informées. Il y a des mesures de prévention, il y a également maintenant des mesures thérapeutiques qu'on peut proposer aux femmes enceintes qui contractent cette infection en début de grossesse. Donc c'est très important d'informer les femmes enceintes sur le cytomégalovirus.
Merci beaucoup au professeur Laurent Salomon, gynécologue obstétricien à l'hôpital Necker à Paris. Et merci infiniment à Hélène d'être venue se raconter auprès d'Agathe Le Caron. Ce matin dans la maison des maternelles, nous on se retrouve demain sur France 2, en podcast, sur les réseaux sociaux. Bref, on se retrouve où vous le souhaitez. À demain, bonne soirée, ciao tout le monde.